Nous abordons aujourd'hui les données bibliques concernant la femme dans à la fois ses rôles, sa situation, sa nature. Et je vous propose de commencer par la vision d'ensemble, par les données plus ou moins indirectes que l'on a dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et de ne considérer qu'ensuite les textes décisifs, ceux qui enseignent directement sur notre sujet, c'est-à-dire essentiellement ceux du début de la Genèse et ceux que l'on trouve dans les épîtres de Paul et de Pierre pour un passage. Il me semble que nous pourrons mieux apprécier la portée des textes qui détermine la doctrine si nous connaissons l'arrière-plan sur lequel il se détache. Alors, je crois qu'aujourd'hui, notre temps étant limité, nous n'allons pas pouvoir aborder ces textes brûlants que nous lirons et étudierons dans leurs détails. Nous essayons aujourd'hui de voir les choses à très très grands traits. Dans l'Ancien Testament, les textes principaux se trouvent au début de la Genèse, et nous y reviendrons une prochaine fois, mais il y a d'autres données qui sont quand même intéressantes et que je vais essayer de résumer. Il y a trois types de données essentiellement. Il y a ce qui nous est raconté de la vie en Israël, ou même avant qu'Israël existe au temps des patriarches. Il y a les dispositions de la loi de Moïse et il y a les réflexions des sages que l'on trouve essentiellement dans le livre des Proverbes. Il y a également un passage que je mentionnerai dans l'Ecclésiaste. On pourrait ajouter une quatrième catégorie. Il ne s'agit plus simplement et directement de la situation de la femme, mais de l'usage symbolique de l'imagerie féminine, en particulier chez les prophètes. Dans cet ensemble de données réparties dans les diverses catégories, il n'y a, me semble-t-il, pratiquement rien qui traite directement de la nature de la femme. La femme est comme ci, la femme est comme ça. C'est une chose assez frappante. Je pense que c'est aussi pour le Nouveau Testament d'ailleurs, mais en tout cas déjà dans l'Ancien Testament, qu'il n'y ait pas de stéréotypes concernant les caractères féminins comme on en trouve dans tant de cultures. Si vous en voyez, vous pouvez tout de suite m'interrompre et me dire, mais il y a ceci, mais il y a cela. Mais il me semble que l'essence de la féminité ne trouve pas de définition particulière dans aucun texte. Je laisse à part, donc au début de la Genèse, dans aucun texte de l'Ancien Testament, le seul passage d'apparence assez misogyne que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est ce passage de l'Ecclésiaste que j'ai mentionné tout à l'heure, chapitre 7, versets 26 à 28, et autant aborder tout de suite cette difficulté. Ecclésiaste s'exprime d'une manière très pessimiste dans ces quelques versets, après avoir raconté comment il a cherché à tout connaître, explorer par la sagesse et la raison. Il dit « J'ai trouvé plus amère que la mort la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur deviendra sa capture. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses, une à une, pour en trouver la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvée. Ce qui paraît évidemment c'est négatif à l'égard des femmes. Remarquez que ce n'est pas tellement positif à l'égard des hommes, puisque quand même 999 sur 1000 se trouvent aussi du mauvais côté dans ce bilan que fait l'Ecclésiaste. Mais enfin, la différence qui est faite semblerait suggérer que la nature féminine est plus perverse encore que la nature masculine. Cette interprétation ne me paraît cependant pas s'imposer absolument. À coup sûr, bon, quand on lit cela, on a d'abord l'impression que l'Ecclésiaste jugeait sévèrement les femmes en général. Mais si le verset 26 se rapporte à un type de femme particulier, ça on le reconnaît bien, celui qui correspond à la séduction du pêcheur qui devient sa captive. Donc si on peut déjà écarter ce verset 26, il me semble qu'on peut faire deux observations pour la suite, qui est donc ce qui nous intéresse le plus.
C'est étonnant de la part de l'Ecclésiaste du fait qu'il ne manquait pas de femmes.
Marquis, on pourrait dire que c'est d'autant c'est aussi une raison qu'on pourrait invoquer, mais ce n'est pas une des raisons que j'envisage. La première des raisons que j'envisage pour, disons, éviter la conclusion que l'on tirerait, à mon avis, à tort de ce passage, c'est que l'Ecclésiaste c'est l'homme des contradictions. Son livre se meut de la thèse à l'antithèse et puis revient sur une première idée, et ce n'est que vers la fin que l'on discerne quelle est sa conclusion. Il nous expose en quelque sorte ses débats intérieurs. C'est un monologue dialogué, pourrait-on dire, que le texte de l'Ecclésiaste. Et il est très dangereux de piquer un seul verset dans l'Ecclésiaste pour dire, voilà, ça c'est la parole de Dieu, donc voilà l'enseignement que nous devons recevoir. Nous voyons un homme aux prises avec ses pensées. Il se répond, etc. Il dit son pessimiste, rien de nouveau sous le soleil, et puis finalement, dans le séjour des morts, il n'y a rien, etc. Et puis après ça, alors il revient sur ces choses, il renverse ce qu'il avait dit dans un temps précédent, de telle sorte que l'interprétation de l'Ecclésiaste est une chose délicate, à coup sûr. Ça, c'est la première raison qui nous doit nous rendre prudents devant ce verset 28, ici, spécialement. La deuxième raison, et c'est celle qui, pour moi, a encore le plus de poids dans le travail d'interprétation de ce verset, c'est que nous avons ici un homme qui parle, et qui parle de ses recherches parmi les hommes et parmi les femmes. Il ne s'agit pas tant de la nature de l'homme ou de la femme considérée objectivement que de la relation que l'Ecclésiaste voulait établir avec les uns et les autres. J'ai cherché un homme pour pouvoir me confier en lui, pour pouvoir avoir avec lui cette communication vraie qui manque tellement à l'homme tant qu'il ne l'a pas trouvé. Et j'en ai trouvé peut-être entre 1000 une femme, non. C'est un homme qui parle. Il me semble que le témoignage qu'il rend après toutes ces recherches infructueuses concerne non pas la femme considérée à part, mais la relation entre hommes et femmes plutôt. C'est un homme qui parle de ses recherches et qui atteste qu'il est horriblement difficile aux humains d'établir les relations vraies, desquelles pourtant ils ont faim et soif, avec un homme entre mille, peut-être, oui, une relation d'amitié peut s'établir sans trop de problèmes et de contradictions internes, mais entre un homme et une femme, dit l'Ecclésiaste, parlant des réalités sous le soleil et indépendamment de ce que l'Éternel peut donner et qu'il évoque tout à la fin de son livre, pour un homme et une femme, pratiquement, c'est pas possible. Donc je suggère de comprendre cette parole, non pas comme une proposition sur la nature féminine en général, mais sur la difficulté d'être ensemble des hommes et des femmes. Voilà la signification qui me semble en tout cas possible pour ce verset. En dehors de ce verset, je ne verrai pas de parole qui se rapporte à la nature de la femme en général. Et je ne pense pas non plus qu'il y ait de paroles sur la valeur. La notion de valeur est encore très proche de celle de nature. Ah oui, alors là je parle de l'Ancien Testament pour le moment. Hein. Pour le moment, je m'en cantonne encore dans l'Ancien.
J'avoue que l'argument que tu viens d'évoquer ne me semble pas du tout convaincant. Ça me fait penser à un passage d'Ecclésiastique, je crois, où il y a aussi une méchanceté qui est dite sur les femmes.
Oui, dans l'Ecclésiastique, effectivement. Oui, oui.
N'importe quelle méchanceté, sauf une méchanceté de femme, en fait, c'est quelque chose de cette farine-là. Et je me demande, c'est une question que je pose, puisque dans le Nouveau Testament, dans certaines versions, il me semble qu'on a écarté cette histoire de l'ange qui agite l'eau, parce que l'eau de la citerne de Siloé, je crois.
Oui.
Parce que on a trouvé que c'était peut-être mal attesté par des manuscrits. Mm-hmm. Et puis, ça a des relents de superstition qui cadrent mal avec la vision générale de l'Écriture sainte. Est-ce que là, par exemple, on ne se trouverait pas dans un cas similaire, il y a quelque chose qui est incongru et qui ne colle pas à l'harmonie du texte biblique et à la vision sur l'homme et la femme en image de Dieu? C'est une question que je soulève peut-être.
À ma connaissance, il n'y a aucun problème textuel ici, et on reconnaît dans cette manière de parler tout à fait le langage de l'Ecclésiaste. Alors, essayez d'exciser ce passage du livre de l'Ecclésiaste, ça me semblerait très arbitraire. Mais je crois qu'il est bien préférable de le comprendre selon le mouvement propre du livre. Il s'agit là d'un diagnostic pessimiste qui se rapporte à la réalité humaine considérée indépendamment de la grâce de Dieu. Et en tout cas, je crois pouvoir maintenir que c'est le problème relationnel qui est vraiment posé, plutôt que celui d'une nature propre, mais même si c'était alors la nature propre de la femme qui était visée par l'Ecclésiaste, on pourrait y voir un moment de cette méditation souvent contradictoire qui est le cheminement du livre.
Dans le problème relationnel, je trouve que ce que quelqu'un disait tout à l'heure sur la multitude des femmes, la véritable collection de Salomon, parce que ça ne peut être qu'une collection, ne pouvait pas lui permettre de développer des relations harmonieuses avec les femmes. Il ne pouvait aboutir que là.
À coup sûr. Alors, bon, pour être tout à fait net, je dirais que si je ne recours pas à cet argument pour mon compte, c'est parce que je ne pense pas que Salomon soit l'auteur de l'Ecclésiaste. Je pense que l'auteur de l'Ecclésiaste est un sage qui a vécu plusieurs siècles plus tard, qui a fait référence à la figure de Salomon, stylisée, évoquant l'expérience que Salomon a faite, mais qui est cependant un autre que Salomon. Alors, j'utiliserais l'argument, si je pensais que Salomon en est lui-même authentiquement l'auteur, ça devient un problème d'introduction à la Bible. Là, les évangéliques ne sont pas tous d'accord sur ce point. Par exemple... Et par exemple, M. Nicole tient pour Salomon comme auteur. Mon père ne pense pas que ce soit Salomon l'auteur. Depuis donc très longtemps, à l'Institut biblique, les deux opinions ont été représentées. Il y a encore aujourd'hui, dans le monde des spécialistes évangéliques, les deux opinions. Je me rappelle une fois avoir abordé le sujet avec l'auteur de l'introduction au Nouveau Testament, récemment publiée par Emmaüs. Introduction à l'Ancien Testament récemment publié par Emmaüs, Gleason Archer, mais j'ai sorti tout de suite, il se bloquait, il ne voulait pas admettre la possibilité d'en discuter. Par contre, un autre grand défenseur très qualifié des positions orthodoxes, considéré souvent comme particulièrement net et dur, Edward Young, on n'a pas traduit son introduction à l'Ancien Testament en français, mais sans doute plus fameuse que celle d'Archer en anglais, lui pense que ce n'est pas Salomon qui est l'auteur. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé, je n'ai pas repris la balle au bond à propos de cette multitude de femmes et de concubines que le roi Salomon a eues.
Vous avez une opinion, vous ?
Pardon ?
Vous avez une opinion sur l'auteur ?
Alors, je pense que c'est un sage qui a vécu plusieurs siècles plus tard. C'est à cause de la langue, surtout du livre, qui est très différente de la langue de pratiquement tous les autres livres de l'Ancien Testament, que je suppose que l'auteur a écrit au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui me semble bien le désigner comme un sage distinct de Salomon, c'est la manière dont il est présenté tout à la fin du livre. Le verset 9, dans la conclusion du chapitre 12, évoque qui fut l'Ecclésiaste, et il me semble qu'il est présenté comme un sage que ses disciples ont reconnu, mais que le reste du peuple pouvait avoir oublié, différemment, me semble-t-il, de ce qu'on aurait dit de Salomon. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes, l'Ecclésiaste a tâché de trouver des paroles agréables, transcrites exactement, ce sont des paroles véridiques, les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs de recueils sont comme des clous plantés, c'est le don d'un seul pasteur.
De toute façon, c'est une chose secondaire.
Oui, de toute façon, c'est relativement secondaire. C'est à propos de l'argument sur le nombre des femmes de Salomon que j'ai évoqué cette question. Autrement, bien sûr, il s'agit d'un homme inspiré qui nous a donné la parole de Dieu, une parole de Dieu de forme très spéciale, puisque c'est celle d'un monologue intérieur où il avance des arguments, des objections, il répond, progresse comme ça de façon un peu chaotique jusqu'aux paroles de la fin. Le chapitre 7, verset 28, sur la femme, oui. Mais je l'ai cité, puisque nous faisons une revue qui veut essayer d'être complète, n'est-ce pas ? Je l'ai cité parce que c'est le seul qui me paraîtrait énoncer quelque chose sur la nature de la femme, selon en tout cas une façon de le lire.
Vous allez revenir,
mais non, je ne pense pas y revenir. Alors, oui, si vous voulez en discuter.
Ce texte, dans la façon dont vous l'avez interprété, me paraît éclairer un point. C'est que finalement, même dans une relation de communication vraie, comme vous l'avez dit, il reste toujours peut-être une solitude profonde dans l'âme de l'un ou de l'autre.
Oui.
Et même au sein du mariage le plus réussi, enfin moi, je n'ai pas l'expérience, mais j'ai entendu quelques confidences. disons, même dans une situation où la grâce de Dieu est présente, ce texte me paraît aussi, dans la façon dont vous l'avez interprété, valoir.
Oui, j'irai dans votre sens, parce que la grâce de Dieu remédie aux infirmités de notre chair, mais elle ne les abolit pas totalement en cette vie. Par conséquent, il en reste toujours quelque chose, et quelque chose qui parfois pèse lourd. Si ici, il est question de ces infirmités de notre chair, et de la difficulté pour un homme et une femme à établir cette communication, je pense que ça vaut encore pour les chrétiens. Dans la mesure où nous sommes encore infirmes, et nous le sommes encore.
Et c'était d'autant plus difficile en ce temps-là que l'homme était cultivé, la femme ne l'était pas. Il y avait forcément une distance beaucoup plus grande entre les deux pour se comprendre.
Alors là, nous allons y arriver, parce que c'est un peu justement la suite. Donc, quant à la nature, il me semble que c'est le seul texte, et donc il ne me semble pas porter, quant à moi, vraiment sur la nature, mais plutôt sur la relation. Et quant à la valeur, encore citer un passage. Un seul passage aussi semblerait faire une différence de valeur. Pour le reste, je ne vois rien dans ce sens. C'est ce qui se trouve dans le Lévitique, au chapitre 27, à propos des tarifs pour le rachat des veaux. l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, si tu as affaire l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un garçon, de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un garçon et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un homme et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, le présentera au sacrificateur, le sacrificateur l'estimera. C'est en rapport avec les ressources de celui qui a fait le vœu que le sacrificateur fera son estimation. Alors, le texte, à première lecture, là encore, pourrait suggérer une moindre valeur de la femme. Puisque, ici, le tarif est clair, 50 cycles et 30 cycles entre 20 et 60 ans.
Jésus a été estimé à 30 cycles.
Jésus a été estimé à 30 cycles, oui, mais alors là, c'est le prix d'esclave, qui semble avoir été le tarif pour la vente des esclaves et non pas pour ses vœux dans la loi. Alors, est-ce que vraiment on peut tirer cette conclusion quant à la valeur? Bon, de nouveau, il me semble que ce n'est pas le cas, parce que ce qui est en cause, il ne semble pas que ce soit la valeur propre aux yeux de Dieu, mais l'importance sociale, et même plus spécifiquement les ressources de ceux qui font le vœu. Le verset 8 le dit très clairement, c'est en rapport avec les ressources de celui qui a fait le vœu que le sacrificateur fera son estimation. Donc s'il y a une différence ici entre l'homme et la femme, de même qu'il y a une différence entre l'homme dans la force de l'âge et puis celui qui a dépassé 60 ans, ou l'enfant, il s'agit des différences de ressources dans la société d'alors, mais on ne peut pas, je crois, tirer de ce texte que Dieu estimerait la valeur de la femme ou de la fille inférieure à celle d'une personne de sexe masculin. Ce serait, je crois, mal interpréter ce texte, qui dit clairement, c'est pour ça que j'ai voulu lire jusqu'au verset 8, que c'est en rapport avec les ressources que l'estimation est faite. Donc dans ces différences de tarifs, nous avons, je crois, le reflet des différences de moyens sociaux dans la société de l'époque, mais nous n'avons pas une thèse quant à la valeur. Lévitique 27, versets 1 à 8. Autrement, tout ce qui pourrait toucher à la valeur, ce serait un ensemble de textes des proverbes que vous connaissez bien, qui chantent au contraire la valeur de la femme pour celui qui en obtient une par la grâce de l'Éternel. Et en particulier, vous avez le passage sur lequel nous allons encore revenir, de la fin des proverbes, qui parle de la femme de valeur. C'est précisément un mot qu'on peut traduire valeur, qui est employé. Donc suggérer que qu'il y ait dévalorisation de la femme pour l'Ancien Testament me semblerait infondé si l'on voulait le tirer de ce texte de Lévitique 27.
On a l'impression que toute chose égale par ailleurs quand même. La femme dit ce qui est puis l'homme une valeur supérieure.
Oui, mais c'est en rapport avec les ressources. Donc je crois que nous pourrions dire que le barème ici est un barème qui correspond aux ressources moyennes dans la société israélite. Et
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a plus de ressources que la femme
Oui, c'est ça. Et ce qui veut dire aussi que la femme n'est pas sans ressources. Ce qui est intéressant à observer et qui va me sembler confirmé par d'autres données, d'ailleurs.
Et ce serait en vertu de quelle loi que l'homme aurait plus de ressources?
Je dirais, ce n'est pas en vertu de la loi, c'est le fait à partir duquel donc la loi est édictée. Celui qui fait un vœu donc devra. Je pense que c'est un remboursement. Là, je n'ai pas étudié la manière dont ça fonctionne exactement, ces estimations, dans le cas des vœux, mais devra payer ce montant-là. C'est en rapport avec les ressources dont il dispose, ce qu'il représente dans la vie sociale.
Si Moïse est l'auteur de la loi, la société israélite n'avait pas encore été établi.
Je crois qu'on doit dire que Moïse s'est adapté à la société du Moyen-Orient de l'époque, à bien des égards, qui n'a pas pu travailler comme en utopie, disons, décidant, sous l'inspiration de Dieu, bien sûr, décidant que serait la forme de tous les usages. Non, il a pris comme matériau un certain nombre de données préexistantes. Et il me semble que Jésus le dit assez clairement à propos de la permission du divorce facile. Donc, puis on le voit à d'autres égards aussi, des similitudes avec le code d'Amourabi, ou bien pour la loi des sacrifices, des similitudes avec les sacrifices cananéens, par exemple. Il y a des relations de correspondance assez proches, hein, entre le système des sacrifices cananéens, dont on a les textes de loi dans les tablettes ougaritiques découvertes par Samra, et puis les sacrifices de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse.
Donc il n'y a pas de loi dans l'Ancien Testament établissant ce barème de ressources supérieures pour l'homme.
Il me semble que c'est la bonne interprétation de cette différence qui est faite ici.
Il est à noter que dans bien des régions d'Afrique, la femme noire a des ressources, c'est même elle qui fait vivre la famille, qui la nourrit. Le mari ne donne rien à son épouse pour nourrir le foyer. Et le foyer, c'est pas simplement papa, maman et les enfants. Hein. C'est une véritable collectivité. Et la femme fait face à tout cela, avec ses champs, avec son commerce et tout. Elle est autonome. Comparativement à la femme européenne qui dépend de son mari pour son argent de poche, et qui veut travailler pour affirmer son indépendance, la femme africaine, par exemple, n'est pas dans cette situation-là. Et c'est assez intéressant à observer.
Oui, oui.
Bien que par d'autres côtés, elle est assujettie. Mais de ce côté-là, elle a une indépendance qui est tout à fait remarquable.
Dans la fin des proverbes, c'est un peu l'image de la femme vertueuse qui est donnée dans ce sens.
Oui, alors là, justement, je ne sais pas si nous prenons tout de suite cette donnée-là, peut-être que nous l'aborder maintenant. Donc, vous venez d'employer l'expression femme vertueuse, parce que c'est celle de plusieurs versions, c'est celle que j'ai traduite tout à l'heure, femme de valeur. Il me semble que l'expression vertueuse a pris dans notre langue un sens qui n'est plus celui de l'original, en proverbe 31. Parfois péjoratif, mais de toute façon moral, alors que je pense qu'autrefois, lorsque les premiers traducteurs l'ont employé en français, elle correspondait quand même à un sens possible de l'original, qui est le sens de force. Le mot hébreu employé là, c'est chayil, qui peut signifier soit la force, même la force militaire, la vaillance, soit la richesse, c'est la valeur. Alors le mot vertu, autrefois, signifiait la force. Et donc la femme de vertu, la femme vertueuse, c'est la femme qui a une grande force dans toute la conduite de sa vie. Mais le sens a glissé en français. Et maintenant, il suggère autre chose, ce mot, que ce que l'original hébreu suggère. C'est pour ça que, personnellement, je prends plutôt la traduction « femme de valeur ». Certains ont voulu traduire la femme forte, mais ça ne va pas non plus du tout en français aujourd'hui. Là encore, n'est-ce pas, l'expression courante a glissé dans son sens. Alors, c'est pour ça que je suggère qu'on prenne plutôt la femme de valeur. Alors, justement, cette femme nous montre à quel point il pouvait y avoir autonomie, activité avec initiative propre et importance dans la vie sociale pour la femme en Israël. Nous considérons donc la part que la femme avait dans la vie sociale. Il me semble qu'on ne peut pas nier, d'une part, qu'il y a eu patriarcat, que les hommes étaient en général dominés, régler la vie sociale, c'est eux, semble-t-il, qui siègent à la porte, c'est-à-dire au conseil municipal, là où les décisions se prennent, qui règlent la vie de la société, qui signifie proprement possesseur, maître possesseur, est employé dans deux usages par extension. D'une part, il est employé pour les divinités païennes censées posséder telle ou telle parcelle du pays, et d'autre part, il est employé pour le mari dans le mariage. Le mari s'appelle le Baal, c'est souvent traduit mon mari, Baali, mon mari, dans un bon nombre de textes. Alors il est intéressant de savoir que ce n'est pas le seul terme pour mari. Vous avez soit Baal, soit le mot Ish, que l'on trouve dans Genèse 2, à mieux venir, qui signifie simplement l'homme au masculin. Et vous avez deux façons de dire mon mari, de dire mon Baal ou mon Ish. Et Baal est employé de façon très fréquente. Donc, incontestablement, il y a une dominance masculine dans la vie sociale de l'Ancien Testament. Mais pour autant, il n'y a pas annihilation de la femme et je crois qu'on doit écarter de son esprit les images qui viennent du Moyen-Orient moderne ou de l'Afrique du Nord moderne. Du fait que les conditions matérielles de vie et un certain nombre d'usages extérieurs sont semblables, les tisanes, sous le soleil parmi les oliviers, etc., nous avons tendance à projeter ce que nous savons des femmes voilées dans les pays musulmans modernes, ou modernes plus ou moins, de ces derniers siècles, sur l'Ancien Testament, sur notre lecture de l'Ancien Testament, et imaginer une oppression, car ça nous semble, en tout cas à nous, une oppression de la femme, pareil dans l'Ancien Testament. Alors je crois que c'est une idée fausse, c'est une projection qui n'est pas justifiée, mais que de nombreuses données dans le texte de l'Ancien Testament montrent que la femme, tout en étant défavorisée quant à la détention du pouvoir et dans l'évaluation de l'importance sociale, ce que nous retrouvons dans les tarifs du Lévitique, que la femme avait cependant une bonne mesure d'initiative, de part des responsabilités, de reconnaissance aussi, pour des rôles assez divers. Alors, Proverbe 31 peut être mentionné, mais aussi d'autres éléments ne sont pas sans valeur. D'abord, dans le droit du mariage, il y avait au moins le consentement nécessaire. On le voit dans le cas de Rebecca. Rappelez-vous comment Rebecca donne son accord à propos du mariage avec Isaac. Nous avons le régime de la dot, qui est en fait une protection de la femme. Et la loi sur l'impossibilité en Deutéronome 24 pour un mari qui a répudié sa femme de la reprendre après est aussi à comprendre comme une protection de la femme qui ne peut pas être alors renvoyée puis reprise, traitée au fond comme un objet dont le mari dispose à sa guise. Certes, à cause de la dureté du cœur de l'homme, Dieu n'a pas spécifié de manière très précise les motifs qui peuvent légitimer une répudiation, et de ce fait, la répudiation a été extrêmement facile dans le judaïsme ensuite. Mais il reste qu'il fallait le billet de répudiation, première protection, et qu'il y avait l'impossibilité pour le mari de reprendre, de telle sorte qu'il devait peser sa décision avant d'écrire le fameux billet. C'était une protection de la femme par rapport à l'arbitraire du mari. Donc dans le droit du mariage déjà, je crois qu'on peut dire qu'il n'y avait pas là d'annihilation du droit de la femme, mais dans la vie sociale, nous voyons des femmes jouer un rôle assez efficace. Je pense en particulier à ces femmes sages, comme on les appelle, femmes expertes, qui semblent jouer un peu le rôle de sages de village que l'on va consulter, que l'on fait intervenir. Pensez à la femme sage de Tekoa que le général Joab utilise pour aller parler au roi David. Et à d'autres reprises aussi, cette institution apparaît. Donc il s'agit de femmes qui exercent une influence autour d'elles, dans la vie du pays. Il y a les anciens, mais il y a aussi ces femmes-là. Sont-elles un peu comme des avocates? Peut-être, oui, un rôle sans doute qu'on ne retrouverait pas, au moins simplement tel quel dans la vie d'aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut observer. Il y a le rôle important de la reine mère qui s'appelle, elle a un titre spécial qui s'appelle la Gvira, une forme féminine qui appartient à la même racine que Gibor, héros, vaillant, guerrier. Et souvent, si le mot Gever, par exemple, indique un homme dans sa virilité, eh bien, le mot Gvira était le titre de la reine mère, s'appelant la dame, et il semble qu'elle ait exercé là une influence importante et que la dignité ait été, je dirais, comme une haute dignité, car le roi Asa, nous est-il dit, on a privé sa mère parce qu'elle avait fait une idole d'Astarté, donc elle a été sanctionnée par la perte de cette dignité. C'est dire que cette dignité n'était pas rien, la dignité de la Gevira. On peut d'ailleurs observer, je crois que je tirais ça de l'observation de l'histoire de la royauté dans l'Ancien Testament, qu'au fond la mère l'emportait de beaucoup en influence sur ses enfants dans la famille royale, l'emportait beaucoup sur le père, sans doute à cause de la polygamie. Mais on s'aperçoit que lorsqu'une mère était, disons, fidèle de l'Éternel, eh bien, les rois, alors, issus de cette mère, ont marché droit. Alors que les fils d'une autre mère, de la famille royale, eux, avaient d'autres tendances. On observe en particulier à propos des enfants du roi Josias. Avec un premier roi qui succède à Josias, qui était fils d'une première femme, qui veut marcher dans les pas de son père, mais qui est tout de suite alors déposé par le pharaon, qui en prend un autre, fils d'une autre mère, qui devient Joachim, roi impie, roi idolâtre. Et puis lorsque Nebuchadnezzar dépose le fils de Joachim, alors il met sur le trône, parce qu'il est censé avoir la même orientation que Josias, il met sur le trône un fils de la première reine. C'est dire que le roi est occupé dans ses affaires, il avait tellement d'enfants que ça n'occupait plus finalement, et la mère a joué un grand rôle, et du coup, lorsque l'un de ses fils devenait roi, elle avait une dignité qui comptait dans la vie sociale. Ça me paraît chose d'intéressant. Alors là, nous touchons aussi au problème de l'éducation, et dans l'éducation, on doit reconnaître l'importance de la mère d'après le livre des Proverbes. Très souvent, le parallélisme des proverbes dit l'enseignement de ton père, les instructions de ta mère. Le père et la mère sont mentionnés conjointement. Ce n'est pas du tout, la mère n'est rien qu'une servante dans la maison, c'est le père qui seul instruit. C'est pas ça. Et je dois dire que j'ai été frappé, il y a déjà pas mal d'années, par une chose que M. Courtial avait mise en valeur, que je l'ai souvent répété depuis. Savoir que dans la structure biblique, déjà dans l'Ancien Testament, de la famille, il y a autorité du mari dans le couple, mais il y a autorité des parents conjointement dans la famille et par rapport aux enfants. Et ce n'est pas l'autorité du père, qui serait le monarque pour toute la famille. C'est, je crois bien, ce qui apparaît dans le livre des Proverbes. Donc là encore, des données qui me semblent montrer que la femme n'était pas écrasée. Alors, quant au rôle, puisque maintenant nous avons touché le problème des rôles, je crois qu'on ne peut pas manquer le fait majeur, ce qui est le plus gros dans tout l'Ancien Testament, à propos de la femme, c'est que sa gloire, c'est d'être mère. Alors, la maternité paraît vraiment, pour tout l'Ancien Testament, la vocation par excellence de la femme. Cela apparaît peut-être déjà dans le texte de la Genèse, nous en reparlerons, mais en tout cas, dans les récits des patriarches, c'est une évidence, et dans beaucoup d'autres textes, nous en avons l'écho. La femme s'accomplit en devenant mère, c'est pour elle une opprobre que de rester stérile, et la grande prière à Dieu de celles qui n'ont pas d'enfants, c'est que Dieu accorde des enfants. Et vraiment, ça, c'est une constante dans tout l'Ancien Testament. Cela ne signifie pas, bien sûr, je crois, que le rôle maternel, surtout entendu dans le simple sens de la reproduction, de la procréation, soit l'unique rôle de la femme. Proverbe 31 montre bien qu'elle peut avoir d'autres responsabilités, d'autres activités, mais il n'y a pas doute que ce qui distingue la femme dans l'Ancien Testament, c'est d'abord cette vocation-là. En tout cas, c'est ce qui me semble apparaître avec beaucoup de force. Dans le culte, pour continuer notre revue, nous ne dépasserons pas l'Ancien Testament aujourd'hui, je crois, dans le culte, eh bien, il y a deux éléments, l'un négatif et l'autre positif, par rapport à l'importance que donner aux femmes. L'élément négatif, c'est qu'il n'y a pas de prêtresse. Le sacerdoce, qui comprend aussi l'enseignement, n'oublions pas que l'enseignement de la loi était attribué aux prêtres, le sacerdoce est exclusivement masculin. Alors que dans les pays environnants, il y a des prêtresses. Dans la plupart des religions anciennes, les prêtresses sont présentes. Souvent d'ailleurs, ça peut être une explication de cette absence de tout sacerdoce féminin dans l'Ancien Testament. Souvent, ces prêtresses participent à des cultes licencieux, à des rites qui impliquent la sexualité. Mais en tout cas, on peut observer là cette nette différence. Par contre, l'office prophétique est ouvert aux femmes. Vous voyez, donc ça c'est l'élément positif. Quant au culte, pas de prêtre, pas de prêtresse, mais des prophétesses. Déjà Myriam, la sœur de Moïse et Aaron, joue vraiment le rôle de prophétesse. Et nous en retrouvons d'autres à d'autres époques. On a noté que Hulda, la prophétesse du temps du roi Josias, c'est celle que l'on va consulter, alors que pourtant d'autres prophètes masculins prêchent à cette époque, en particulier Jérémie. Jérémie étant sans doute encore jeune, mais il y a sans doute Sophonie aussi, peut-être Habacuc, au moment où le roi Josias donc, ne sait pas que faire après la découverte du rouleau de la loi, c'est vers Hulda, la prophétesse, que va chercher la parole de l'Éternel. C'est indiqué que cette prophétesse n'est pas considérée comme une petite prophétesse marginale, si je veux dire. Elle avait réellement de l'importance.
Ne pourrait-on pas dire que c'est l'exception confirme la règle? Parce que dans plusieurs endroits, nous voyons dans la Bible qu'il y a des commandements, mais qu'il y a... Jésus a contredit certaines choses du commandement. Il a écrit ceci, mais moi je vous dis cela. Alors, ne pourrait-on pas dire, voilà cela, mais pour Dieu se permet d'enfreindre ses règles parce que c'est sa volonté.
Je crois que cette idée-là peut être très intéressante, et quand nous viendrons aux conclusions de notre étude, dans quelques séances, je crois qu'il faudra y penser, vraiment. Mais... pour le moment, je crois qu'on doit dire que quant aux prêtres, il n'y a pas d'exception dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de prêtrise féminine, et que quant à l'office prophétique, ce n'est pas une exception, c'est vraiment quelque chose de très fréquent qu'il y ait des prophétesses. C'est aussi naturel, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, aussi normal, aussi régulier que la présence de prophètes. Ça, je crois qu'on peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de prophétesses. Et je mentionne cette Hulda, mais il y en a eu d'autres, et puis il y a eu des fausses prophétesses comme de faux prophètes. Vous voyez que dans les dénonciations lancées par Ézéchiel, par exemple, contre les faux, il y a autant de prophétesses que de prophètes. C'est bien la preuve qu'on ne considérait pas du tout que c'était une exception qu'il y ait une prophétesse. Donc, je crois que là, c'est une chose qu'on peut observer. L'office prophétique n'est pas réservé. Et alors, même au-delà de l'office prophétique, quoi, la charnière, la réserve, vous avez Déborah. Déborah, qui est une sorte de prophétesse, saisie par l'esprit, mais qui a des fonctions gouvernementales associées à cette capacité à donner la parole de Dieu. Donc là, on peut peut-être davantage parler d'exception, je ne sais, parce que je ne vois pas d'autres exemples de femmes occupant des fonctions gouvernementales du tout premier plan, dirigeant vraiment la vie du peuple. Elle est à moitié prophétesse, disons, mais ne peut pas simplement la faire entrer dans le cadre de l'office prophétique. Il y a bien eu une reine aussi, seulement, elle a laissé une aussi sinistre mémoire, il y a eu Athalie, n'est-ce pas? Alors, je ne pense pas qu'on puisse tellement la compter comme exemple positif. Les autres rois ont été masculins. Et les autres juges, dans l'Ancien Testament, ont été masculins. Mais il y a quand même eu Déborah. Moi, je serais davantage porté, dans le cas de Déborah, à parler d'un don extraordinaire de la part de Dieu. Mais bon, ça peut se discuter sans doute, dans la mesure où quand même son don de juge est proche de celui de prophétie. En tout cas, la présence de ces femmes montre que ce n'est pas rien du tout qui est reconnu comme rôle, comme importance sociale à la femme. Et il reste une dernière grande donnée, alors elle est importante, mais elle a une valeur indirectement, mais elle est très importante comme telle, c'est l'usage du symbolisme dans le langage de l'Ancien Testament tout entier. C'est un symbolisme masculin, sauf quelques très rares exceptions, qui est employé pour Dieu. C'est clair, tous les pronoms qui le désignent sont masculins, il est appelé père, guerrier, etc. Et puis c'est toujours au masculin. Il est comparé dans deux ou trois passages à une mère pour sa tendresse et son affection, sa miséricorde, mais là ce n'est pas une simple désignation de Dieu comme mère, c'est une comparaison avec. Quand il est désigné, c'est comme père. Donc il y a là, de manière vraiment très nette, un symbolisme masculin pour Dieu, mais aussi, de manière presque aussi nette, un symbolisme féminin pour le peuple de Dieu. Nous avons la personnification comme femme de Judas, Israël et surtout Jérusalem, la Vierge de Sion, comme on traduit généralement. Et puis vous avez un symbolisme plus orchestré avec tout le thème des épousailles et aussi d'ailleurs de la prostitution qui accompagne, parce qu'il y a corruption de l'alliance dans l'idolâtrie. Alors ça, c'est très massif chez les prophètes. Plusieurs prophètes, mais je pense spécialement à Ésaïe, des passages très très forts en Ésaïe 62, par exemple, d'autres textes aussi. Vous avez déjà osé tout au début, vous avez Ézéchiel, un passage aussi tellement fort qu'on ne peut pas le lire en chair, son langage est trop cru en Ézéchiel 16. Vous avez donc un symbolisme là, très souvent mis en œuvre. L'Éternel est l'époux et son peuple, la cité avec laquelle il est en alliance, est comparé à une épouse, une femme, une fiancée. Donc ça, je crois que ça va compter aussi pour notre étude globale du sujet. Le Cantique des Cantiques rentre-t-il dans cette catégorie? Certains le croient, le nombre des exégètes sont partagés à ce propos. Certains voient un sens allégorique et du coup, alors, une allégorie du rapport entre Dieu et son peuple, ou le roi messianique et son peuple. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une célébration de l'amour humain, mais tel qu'il est donné par Dieu. Moi, j'inclinerais plutôt dans ce sens, en particulier par prudence. Alors, on peut de toute façon observer le caractère symétrique des rapports, au moins relativement symétrique, entièrement réciproque, des rapports entre hommes et femmes dans le Cantique des Cantiques. La formule « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui », etc., est tout à fait typique d'une véritable réciprocité. Voilà pour les données de l'Ancien Testament que nous pouvons survoler.
Et il est à noter une chose aussi. Enfin, je ne discute pas la position de la femme, mais je crois aussi que l'homme a une place, et mis à part Dieu et Christ, il est donné comme chef. Et je pense qu'il y a danger à partir du moment où l'homme ne respecte pas cette place, ne prend pas position. Et lorsqu'on prend par exemple ce passage qu'on cite très souvent pour un cas de mariage, lorsque l'homme prend femme, en tout cas il doit l'habitat, il doit la nourriture à sa femme. Bien sûr, ça, lorsqu'on cite aussi Proverbe 31, il y a la femme aussi qui a place. Mais il a noté un fait, par exemple, je regarde par exemple dans Samuel, c'est Nabal et Abigail.
Oui, c'est l'exemple d'une femme peut-être qui a si bien mené la barque, oui.
Et David va envoyer d'abord auprès du chef. Celui-ci ne va pas prendre sa responsabilité. Donc la femme, c'est une femme aussi qui ne va pas demander, enfin quoi que la situation est un peu difficile, mais c'est une femme qui ne va pas demander l'avis du mari pour savoir si tu es d'accord ou pas. Il a vu que la chose a mal tourné, elle a pris position et elle a réagi. Mais d'abord, on voit David qui envoie vers le chef de la famille, bon, lui qui ne prend pas sa place.
Oui. Je crois que cet exemple d'Abigail et d'Abal est très, très significatif. Des rapports vrais tels qu'ils étaient vécus dans la société d'Israël, montrant, oui, le patriarcat, mais aussi que la femme ne comptait pas pour du beurre, si j'ose dire, dans la vie, et qu'une femme intelligente, selon Dieu, comme l'était Abigail, énergique, pouvait vraiment faire tourner les choses comme elle l'entendait.
Sous la nature de la femme, le fait que les questions de la tendresse de Dieu en rapport avec le symbolisme de la femme,
oui,
dans certains passages, est-ce que cette observation n'incline pas vers une certaine, à donner un certain trait de caractère à la femme plutôt qu'à l'homme?
C'est sa tendresse à l'égard de sa progéniture, des enfants, qui est en cause, et je pense qu'on pourrait dire qu'il y a associé à la vocation à la maternité thèse dans l'écriture que la femme a naturellement un lien affectif fort avec ses petits-enfants. Ce qui ne veut pas dire, parce que je sais qu'aujourd'hui, je lisais encore hier le compte-rendu d'un livre qui essaie de contredire cette thèse, le livre d'Elisabeth Badinter. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est naturel ne puisse pas être perverti. Moi, je maintiens que bibliquement, à cause de ce qui est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle chérit, etc., que ce qui est naturel peut très bien être perverti par les effets du péché. L'égoïsme joue contre des dispositions naturelles, et dans les textes du Nouveau Testament, il est annoncé que les hommes, dans les derniers temps, seront dépourvus d'affection naturelle. C'est comme ça que certains traduisent. Le péché peut éteindre des choses qui sont pourtant naturelles. Il me semble que bibliquement, il faut dire qu'un certain attachement de la femme à ses enfants est naturel. Seulement la culture peut amplifier, peut idéaliser, peut au contraire réprimer, le péché s'en mêle, de telle sorte que finalement, il y a des mères qui peuvent abandonner leurs enfants. Il y en a toujours eu, mais ça n'empêche pas que je crois que la Bible là évoque un attachement naturel.
Cela se rapproche pour Elisabeth Badinter dans l'un de ses prochains livres.
Ah, de toute façon, moi je n'ai pas la télé, alors je ne verrai pas dans l'émission, mais.
Il y a une séance encore au mois de juin.
Oui, en juin, nous avons prévu d'avancer le jour de la réunion d'église, ce qui implique fatigue supplémentaire, mais nous avons voulu maintenir. Les autres dimanches ne conviendraient pas, pour raison de clôture de vos sur scène, de nos gens, etc. Alors finalement, c'est le seul dimanche qui puisse convenir. Le troisième dimanche, c'est-à-dire le 15 juin. Alors, survolerons le Nouveau Testament et peut-être nous pourrons aborder déjà les textes de la jeunesse.